Vous êtes avec Radio SBS en français.
Le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio SBS Arnaud Mercier, qui est professeur et spécialiste de communication politique. Bonjour et bienvenue en Australie.
Bonjour, merci.
Peut-être une présentation de vous-même et de votre parcours professionnel d'abord.
Écoutez, oui, moi je suis professeur donc en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2 à Sas. Je suis spécialiste de communication politique, des questions aussi sur le journalisme, le traitement de l'information. J'ai créé, là où j'étais en poste avant, à l'Université de Lorraine, un master de web journaliste, c'est-à-dire vraiment très tourné sur les technologies numériques et les transformations du métier de journaliste. Et mes travaux de recherche portent justement depuis maintenant, on va dire, depuis 2010, sur les transformations numériques de mes thèmes de recherche habituels, qui étaient justement la communication politique, la communication électorale, ce genre de choses, ou l'exercice du métier de journaliste. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai beaucoup croisé les réseaux sociaux numériques, comme Twitter, comme Facebook et autres, au point d'ailleurs que aujourd'hui, je me déclare spécialiste de trois domaines, le journalisme, la communication politique et les réseaux sociaux en tant que tels, parce que j'ai déjà conduit plusieurs études sur des sujets très divers. Ça va de la manière dont les populations touchées par Ebola en Afrique utilisaient les réseaux sociaux pour s'informer et pour discuter de l'épidémie, en passant par la manière dont les journalistes s'approprient Twitter, la façon dont, en campagne électorale, les candidats, mais aussi les citoyens, utilisent ces réseaux, soit pour soutenir la cause, soit au contraire pour, on va dire, contester les candidats, voire contester le personnel politique dans son ensemble.
Et là, vous êtes en Australie pour une série de conférences, de débats et de workshops, d'après ce que j'en comprends.
Oui, et en plus, je le fais en partenariat avec le site d'information The Conversation. Il a été créé en Australie. Il y a eu des succursales en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en France. Et je suis le président du site français de The Conversation.
D'abord, cette conférence à Melbourne sur le thème « Political disenchantment in France » et l'élection d'Emmanuel Macron.
Oui, ben écoutez, comme j'étais en lien avec l'Australie via le site The Conversation, est venue l'idée d'essayer d'organiser quelque chose, avec les alliances françaises bien sûr, sur l'idée qu'il fallait essayer de comprendre un peu le phénomène Macron, puisque, me dit-on, je n'en sais rien, moi je crois sur parole mes interlocuteurs ici en Australie aussi, comme dans bien d'autres pays, il y a eu un vrai intérêt pour l'élection présidentielle en France, et un vrai intérêt pour cette candidature Macron, pour cette élection d'Emmanuel Macron.
Après le Brexit, après l'élection voilà. De Trump aux États-Unis.
Et ça, je pense que ça s'explique effectivement très facilement, vous avez raison, au niveau international. Je crois que ce que beaucoup de gens dans le monde avaient en tête, c'est une théorie des dominos. En Grande-Bretagne, il y a eu le vote pour le Brexit, donc la sortie de l'Union européenne, qui est quand même une décision majeure et gravissime d'une certaine façon, y compris pour les intérêts d'ailleurs de la Grande-Bretagne. Ensuite, aux États-Unis, à la surprise générale, alors que personne ne s'y attendait, Donald Trump est sorti vainqueur des primaires républicaines et en plus après, il a gagné la présidence, au grand effroi de tout un tas de gens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses premiers mois de mandature ne laissent pas augurer d'une présidence sereine. Et du coup, il y avait cette idée que, mon Dieu, et si la France, c'est le Front National, Marine Le Pen, ça prouve qu'il y a une espèce de théorie des dominos qui est en train de se jouer et que, avec sans doute, je pense, l'inquiétude dans pas mal de pays de dire, alors, qui sera le prochain sur la liste? Et la victoire d'Emmanuel Macron, je pense, a beaucoup frappé les esprits et a été très instructive et très, très observée parce que précisément, on s'est dit « Ah, bon, il n'y a pas de théorie des dominos. Bon, il y a eu le Brexit, c'était le Brexit. Il y a eu Trump, c'était Trump. Et puis là, bon, par exemple, en France, bah non. » Et d'ailleurs, on peut dire la même chose pour des pays moins connus sur la place internationale, mais comme l'Autriche, où pareil, l'élection présidentielle s'est jouée entre un candidat extrême droite et un candidat écologiste, où les deux partis au pouvoir, les sociaux-démocrates et les conservateurs, ont été balayés dès le premier tour. Donc là aussi, il y avait quelque chose qui s'est joué. Et finalement, c'est le candidat écologiste, à la grande surprise, qui l'a emporté. Et aux Pays-Bas aussi, il y avait un parti d'extrême droite assez puissant et qui n'a pas non plus gagné les législatives comme il le voulait. Bref, on voit bien qu'il n'y a pas de théorie des dominos.
La deuxième conférence, c'est à Adélaïde, à l'Université de South Australia, et c'est sur le thème de la démocratie et le rôle des réseaux sociaux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme je vous le disais en introduction, moi, je me suis spécialisé progressivement sur le rôle des réseaux sociaux dans les transformations des activités sociales et humaines liées à toutes les technologies numériques. Et du coup, il se joue beaucoup de choses, je pense, effectivement, sur le rôle des réseaux sociaux. C'est pour ça que j'avais proposé ce thème-là de conférence. Si vous voulez, il s'y joue plusieurs choses à plusieurs niveaux. D'abord, si on fait ça très simplement, je dirais que les réseaux sociaux numériques, les Twitter, les Facebook, les Instagram, tout ce qu'on veut, Snapchat maintenant, WhatsApp moins en France qu'en Australie ou en Asie, ont été intégrés très clairement dans le répertoire d'action électorale, c'est-à-dire que assez rapidement, aux États-Unis, on l'a vu très vite, et bien sûr, Barack Obama a été le fer de lance de ça. On a intégré ces réseaux pour faire campagne, tout simplement, et remobiliser, trouver des gens, notamment s'adresser aux jeunes, parce que les jeunes sont souvent, dans beaucoup de pays, moins intéressés par la politique que les aînés. Bon. Donc ça, c'est assez classique. Ensuite, effectivement, les réseaux sociaux sont de plus en plus, notamment par les jeunes, justement, utilisés aussi pour s'informer, pour suivre les débats, les campagnes et autres. Donc, il y a quelque chose qui se joue qui est de l'ordre du modèle démocratique. On sait que dans le modèle démocratique traditionnel, les médias jouent un très grand rôle, hein, un rôle justement de... Moi, je dis toujours que c'est une sorte c'est de l'huile dans le rouage démocratique, hein, puisque la démocratie repose sur l'idée du citoyen éclairé. Et pour qu'on soit des citoyens éclairés, il faut qu'on soit informé. Et c'est bien le rôle des médias que de nous informer correctement. Bon. Donc, il y a ça. C'est, finalement, les réseaux sociaux sont une huile de plus, si j'ose dire, dans le mécanisme démocratique. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que... il y a une distorsion très grande entre l'idéal justement démocratique du web 2.0, où on avait une espèce de mythologie de l'Internet et des réseaux sociaux comme permettant encore d'améliorer l'interactivité, l'information et que sais-je encore, le débat entre les gens et tout ça. Donc ça, c'était la mythologie. Et il y a un vrai décalage avec la réalité, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que sur les réseaux sociaux, pour des tas de raisons que je peux expliquer, mais il y a au contraire beaucoup de paroles qui sont des paroles extrêmement offensantes, offensives, polémiques, dans lesquelles des gens, sous couvert d'anonymat notamment, expriment leur racisme, leur xénophobie, enfin tout ce qu'on veut, tout le mal. Je dis souvent, d'ailleurs, de façon un peu provocatrice, je dis, bon, c'est pas que les réseaux sociaux, parce que certains disent, ah oui, mais regardez donc la preuve, les réseaux sociaux, c'est le mal. Non, non, simplement, la saloperie humaine s'est faite plus numérique et plus interactive, mais simplement, elle donne une manière de s'exprimer à des gens qui ont ça au fond d'eux. Hein. Bon. Et puis... ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a tous les discours polémiques, il y a tous les... Mais on le voit avec le Brexit, on l'a vu avec Trump, on l'a vu pendant la campagne électorale française avec les tentatives de déstabilisation. Les réseaux sociaux sont aussi utilisés justement pour déstabiliser les candidats, voire même, je dirais, pour déstabiliser l'idéal démocratique électoral, en fait. Et c'est ça qui me paraît vraiment très, très problématique et sur lequel il faut se pencher. On voit que c'est les fameuses règnes des fake news, hein, maintenant, où effectivement, si vous voulez, il y a un nouvel écosystème de l'information qui s'est créé avec les réseaux sociaux numériques. Les réseaux sociaux servent pour beaucoup de gens maintenant à être une porte d'entrée vers de l'information. Vos auditeurs ne me voient pas, mais je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts, parce qu'il y a information et information. Parce que précisément, c'est pour certains un lieu où on peut diffuser des choses, voilà, qu'on présente comme étant des informations, mais qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas au sens journalistique, avec l'idée qu'on recoupe l'information, on vérifie, on ne dit pas n'importe quoi, on a une éthique. Bon. Comme il y a... dans beaucoup de pays, je ne sais pas si c'est le cas en Australie, mais en tout cas c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Europe, de la défiance d'une partie du public vis-à-vis des médias, des journalistes, hein, qui ont pignon sur rue pour des tas de raisons qui ne m'appartient pas d'expliquer ici maintenant, mais tout le monde comprend bien à peu près l'idée. Eh bien, certains se disent, bah voilà, justement, on va utiliser ces réseaux pour faire une autre information, informer autrement, etc. Dans ce qu'on a ce qu'on appelle communément en France la fachosphère, ils ont même théorisé ça en parlant de réinformation, disant voilà, les médias vous mentent, les médias disent n'importe quoi, les médias ne parlent pas des vrais sujets, les immigrés, les ceci, les cela, les complots, puisqu'il y a toujours cette idée de complotisme plus ou moins derrière également. Et donc, nous allons utiliser ces réseaux pour diffuser, pour faire savoir ce dont les médias ne vous parlent pas, qu'ils cherchent même à vous cacher. Hein. Bon. Donc, il y a vraiment cette idée que c'est un autre univers parallèle et, j'allais dire, qui est contre celui des médias, dans lequel circulent beaucoup d'âneries, de bêtises, de mensonges éhontés, et dont certains arrivent à profiter. Ça a été le cas pendant le Brexit, pour ceux qui étaient pro-Brexit. Ça a été le cas de la campagne de Donald Trump, avec des mensonges éhontés qui ont été diffusés, rediffusés, partagés à centaines de milliers d'exemplaires. Donc, il y a un vrai enjeu, et qui est un enjeu démocratique, qui pose aussi la question, d'ailleurs, de la responsabilité des sociétés qui tiennent ces réseaux sociaux, de Twitter, de Facebook et autres. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez, l'argument de ces deux, je prends ces deux sociétés comme exemple, hein, mais évidemment c'est les plus connus par rapport au partage d'informations, Facebook et Twitter se sont toujours retranchés derrière deux choses. Un, le premier amendement est américain, puisque ce sont des sociétés américaines, donc la liberté d'expression est absolue, on ne peut rien faire. Et deuxième argument, c'est de dire, mais nous, vous savez, nous, on se contente d'être une plateforme pour laisser les gens partager ce qu'ils veulent. Donc, que voulez-vous, c'est pas notre responsabilité. Ces deux arguments ne tiennent pas dans des tas de pays parce que la liberté absolue d'expression, eh bien, ça n'existe pas, par exemple, en France, puisqu'on a des lois qui réprimandent de façon éhontée, de façon ferme, tout ce qui est, expression éhontée de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, d'incitation à la haine raciale, ce genre de choses. Donc on a eu des cas en France où il y a eu une jurisprudence qui s'est construite dans laquelle Twitter voulait refuser de lever l'anonymat de gens qui avaient des propos, par exemple, antisémites, mais vraiment ouverts à plein au meurtre, etc. Et donc ils ont dû céder à la justice française et donner les noms. Et puis on a eu le problème aussi avec le terrorisme, par exemple l'Union européenne, mais pas seulement, on demandait à ce que ces plateformes deviennent beaucoup plus vigilantes parce qu'on s'est aperçu que au nom de cette liberté d'expression, ça devenait des plateformes d'endoctrinement et d'appel au djihad. Et là, les uns et les autres ont reconnu que ouais, effectivement, peut-être qu'on pourrait faire éviter quoi. Et puis il y a toute la polémique autour de justement du rôle de Facebook pendant la campagne électorale procédant à l'élection de Donald Trump. Et du coup, on voit que la pression citoyenne, la pression politique, ça a été le cas notamment en Allemagne. En Allemagne, ils ont voté une loi qui est une loi contre les fausses nouvelles de Facebook. Ces opérateurs sont obligés maintenant d'intégrer l'idée que cet argument de dire ah oui, nous, on n'est qu'une plateforme et tout, c'est pas vrai parce qu'ils sont obligés de reconnaître que les gens s'en servent comme un média. Et que donc, ils ont commencé à mettre en place des systèmes de vérification, de labellisation. Alors, il y a encore des tas de problèmes, y compris le fait d'ailleurs qu'ils proposent finalement pour céder à cette. Ils proposent aux journalistes de faire le boulot, mais gratuitement. Donc, ils disent voilà, associons-nous avec des médias, labellisez-nous, vérifiez, etc. Voilà. Donc, Facebook est dans une situation de dire bon ok, on veut bien reconnaître que quand même il faudrait peut-être qu'on labellise un peu mieux, qu'on hiérarchise un peu mieux les informations qui circulent chez nous, mais c'est pas à nous de faire le job et on externalise ça à d'autres, y compris le coût. Donc là, par exemple en Allemagne, les médias allemands se sont concertés et ont refusé de coopérer avec Facebook pour labelliser les informations avec les élections qui arrivent, en disant attendez, c'est votre boulot, c'est ce qui circule chez vous, etc. Bref, là, je crois qu'il y a un vrai enjeu démocratique. Et c'est donc de ça dont je parlerai à Adélaïde.
Et ensuite, à Brisbane, vous revenez sur le phénomène Macron et le nouveau paysage politique en France.
C'est ça. Oui, parce que j'ai dit pourquoi, effectivement, le phénomène Macron pouvait intéresser et pourquoi certains de mes interlocuteurs en Australie m'ont dit « Venez donc traverser toute une partie du monde pour venir parler de Macron ». ce qui peut paraître un peu étonnant. Il y a quelque chose qui se joue, qui n'est pas seulement cette histoire de théorie des dominos que j'évoquais, mais des suites de compréhension du système, de l'état du système politique français. Moi, je pense que cette élection de Macron est intéressante parce que elle nous dit des choses de l'état, j'allais dire, de délabrement du système politique français, de l'état de crise démocratique que nous connaissons. On est en effet dans une situation où quand même une majorité de Français ne sont pas satisfaits, c'est un euphémisme, du personnel politique. Et ces élections sont des élections à nul autre pareil parce que ça a été quand même un grand jeu de massacre, un chamboule-tout. C'est ce qu'a dit Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, lorsqu'il a officiellement proclamé l'élection de le jour de son intronisation à Emmanuel Macron. Il a dit voilà, ces élections, à bien des égards, sont à nul autre pareil et on peut même parler de chamboule-tout. Hein, Coconut shy. Du coup, j'ai cherché à savoir comment on pouvait dire ça en langue anglaise. Prenons déjà les primaires. Les primaires, donc Nicolas Sarkozy à droite, balayé dès le premier tour de la primaire. Quand même, l'ancien président de la République, tout ça. Bon, il avait déjà perdu une élection présidentielle pour sa réélection. Mais enfin, là, il espérait vraiment faire un comeback. Hein. Bon, c'est raté. Alain Juppé, ancien Premier ministre, tout ça. Hein. Hop, au deuxième tour. Ça avait commencé d'ailleurs aussi, il y avait Cécile Duflot, moins connue bien sûr, mais enfin qui était l'ancienne présidente des Verts, ancienne ministre, et qui, hop, balayait dès le premier tour de la primaire des écologistes.
Et l'arrivée de Mélenchon a surpris tout le monde.
Alors, l'arrivée de Mélenchon, après, mais Manuel Valls, Premier ministre sortant, allez hop, balayé, enfin bref. Donc, il y a vraiment eu le côté, déjà, on balaye. Et après, on fait monter des gens nouveaux. Alors, Benoît Hamon, au sein du Parti Socialiste pendant la primaire, sauf qu'après, il s'est effondré totalement pendant la campagne, donc on n'en parle pas trop, on ne tire pas sur un corbillard. Jean-Luc Mélenchon qui a connu une dynamique formidable de campagne, qui est un battleur, un orateur hors pair, il a fait la meilleure campagne, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux, avec notamment sa chaîne YouTube, qui a connu un succès phénoménal. Sa chaîne YouTube, pour que les gens comprennent bien, il a, à lui seul, il a plus d'abonnés que tous les abonnés de tous les autres candidats sur leur chaîne YouTube. C'est vous dire s'il a vraiment écrasé le marché, si je puis dire. Il a fait des coups de com, comme ces fameux hologrammes qui permettaient d'être à plusieurs meetings en même temps. Enfin bon, qui n'était pas réellement un hologramme d'ailleurs. Mais enfin bon, peu importe, c'est pas le sujet. C'est un peu technique, mais c'est pas un hologramme. Mais bon, bref. En tout cas, il a fait le buzz, comme on dit en bon français, il a fait la campagne, et il a ponctionné très clairement une partie de l'électorat socialiste qui, finalement, pour des tas de raisons, pensait que Mélenchon était meilleur que Benoît Hamon, ne serait-ce que comme orateur déjà. Donc, il est monté, et il a connu une telle dynamique qu'on a vu le soir de l'élection, Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, faire le mauvais joueur en fait. Hein. Ça a d'ailleurs été beaucoup reproché par une partie, y compris par une partie de ses électeurs, refusant de reconnaître encore à 22h30 le résultat du scrutin qui ne faisait l'ombre d'aucun doute. Parce que en fait, c'était l'expression profonde d'une frustration chez lui parce que sa dynamique de campagne était telle qu'il avait espéré. De l'autre côté, on sait bien que François Fillon, avec toutes les affaires, évidemment, s'est effrité, au point de perdre une élection qui était donnée comme imperdable quelques mois auparavant. Et puis, on a eu la confirmation de Marine Le Pen, de son ancrage, de cette dynamique, même si là aussi, Marine Le Pen, c'est un peu un mix, puisque au premier tour, elle est qualifiée pour le second, mais finalement, en moins bonne position que tout ce que les sondages lui prédisaient. Et puis, il y a eu cet ovni. Emmanuel Macron qui sort de nulle part. Et moi, je me souviens dans The Conversation, j'avais publié un texte avant Noël qui s'appelait une analyse un peu sur la configuration Macron. Il n'était pas encore du tout dans les deux premiers d'après les sondages. Hein, ça n'est arrivé que plus tard. Mais je disais Emmanuel Macron, candidat de la contestation, trois petits points, si, c'était ça le titre. Parce que il y avait tout un discours qui consistait à dire mais attendez Macron il est énarque, il a été ancien ministre des finances, ouais, il peut pas incarner le changement, etc. Et certains d'ajouter et en plus il pourra jamais être élu parce qu'il n'a aucune expérience, il n'a jamais fait une campagne électorale, il n'a jamais été élu. Or dans le modèle français on est d'abord maire, conseiller général, un député, ministre, puis à la fin peut-être un jour on finira président. Il y a un côté cursus honorum nécessaire. C'est pas du tout le cas. Et moi, je disais, allez, dès avant Noël, mais c'est le contraire. Ce que vous dites là ne sont pas des handicaps, c'est au contraire des atouts dans sa manche, parce que justement, une partie des Français en ont soupé des professionnels de la politique, de ceux qui ne vivent que de ça, qui ont les Français ont le sentiment qu'une partie de ces gens-là ne s'occupent pas des gens comme eux, qui font tout pour être simplement réélus, que ceci, que cela. Enfin bref, il y a des tas de griefs. Et donc du coup, Emmanuel Macron, il incarnait une forme une volonté de renouvellement du champ politique, et il a incarné ça réellement. Et ça s'est revu après aux législatives, puisque on a un renouvellement extraordinaire du nombre de députés. On n'a jamais connu un tel renouvellement, plus de 70%. Sachant que précisément La République en Marche, ça a été perçu à tort ou à raison, parce qu'il y a aussi des recyclés, des anciens élus de d'autres partis qui sont revenus sur l'étiquette République en Marche. Mais enfin, pour une partie, ce sont vraiment des gens nouveaux qui sortent de nulle part. Et qui du coup ont incarné. Voilà. Et je dis souvent, alors que le moins qu'on puisse dire, c'est que les programmes sont très opposés entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Mais je dis toujours en rigolant, je dis finalement celui qui applique le mieux le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est Emmanuel Macron, puisque un des arguments forts de Jean-Luc Mélenchon, c'était le fameux dégagisme. Eh bien, les Français ont choisi que ce soit Emmanuel Macron qui incarne le dégagisme en votant pour lui pour éliminer les autres et en votant pour les candidats de La République En Marche au moment des législatives pour dégager des députés sortants de droite comme de gauche.
Arnaud Mercier, parlez des 100 premiers jours d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Quel bilan faites-vous ?
Alors, c'est un bilan contrasté. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, il y a des gens qui disent « Ah, il n'y a pas eu, c'est la fin de l'état de grâce, etc. » La vérité, c'est qu'il n'y en a pas eu. Il n'y a pas vraiment eu d'état de grâce. Il n'y a pas eu vraiment d'état de grâce. Il suffit de regarder les chiffres, déjà, de l'élection pour s'en convaincre. Emmanuel Macron, si on prend en pourcentage des inscrits, au second tour, alors qu'il fait l'objet d'un appel de pas mal de forces politiques à voter pour lui contre Marine Le Pen, en fait, n'obtient que 45% au total des inscrits. Ça ne veut pas dire qu'il est illégitime à gouverner, mais ça veut dire qu'il n'a pas eu non plus. La victoire n'est sans conteste face à Marine Le Pen au second tour, puisqu'il a plus des deux tiers des voix. Il a presque les deux tiers des voix. Mais il y a vraiment l'idée que si on ramène aux inscrits, bon, et surtout si on ramène aux inscrits au premier tour, parce qu'au premier tour, il fait 24% des exprimés, et 24% des exprimés, et en plus, là-dedans, il y a déjà des gens, notamment des électeurs socialistes qui aurait plutôt voulu voter pour le candidat socialiste, mais qui, voyant que Benoît Hamon s'effondre, voyant qu'il y a un risque qu'un deuxième tour, ce soit par exemple l'élimination d'un candidat de gauche et que ce soit Marine Le Pen contre François Fillon, on va voter pour Macron, au moins il sera au second tour, bon, voilà, bien. Et donc, 24%, c'est même pas 24% de gens qui tous votent comme un seul homme, par conviction, pour Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, il est fragilisé dès le départ. Du coup, je dirais, quand vous vous retrouvez avec des 10 points de moins de bonnes opinions au bout de 2 mois, finalement, c'est plutôt la tendance à revenir vers l'étiage moyen de ceux qui sont prêts réellement à soutenir Emmanuel Macron. Et on est plutôt dans une tendance qui va vers la confirmation de ce qu'il était dès le départ que une espèce de bouleversement inattendu. Alors après, une fois qu'on a dit ça, ce qui me paraît quand même l'essentiel, c'est de rappeler d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela, si je puis dire. Alors là, je dirais que c'est intéressant, comme c'est un cas d'école tout à fait intéressant. En termes de communication, d'image, de gestion de la chose, Emmanuel Macron a eu un grand, grand succès, mais un véritable auprès de l'opinion, y compris dans des gens qui n'ont pas voté pour lui, dans sa manière d'incarner la fonction. Ça fait maintenant 2 présidences. Celle de Nicolas Sarkozy, parce que beaucoup de gens trouvaient qu'il était un peu trop excité, le zébulon là qui, ou au contraire François Hollande estimé trop mou, vous savez le sobriquet dont on l'avait affublé, la flambie, incohérent, inconsistant, bref. Donc, il y avait vraiment l'idée que, depuis 2 présidences, la fonction présidentielle est abîmée. Pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, elle n'est pas bien incarnée. Et là, il a vraiment réussi le coup d'incarner la fonction. Et il l'a fait aussi à l'étranger, à l'international. Il a marqué des points, de ce point de vue-là, dans l'opinion, sur le mode, au moins...
Donc il a redoré l'image de la France.
Il a redoré l'image de la fonction présidentielle et l'image de la France en même temps, ce qui évidemment rejaillit sur lui et sur la vie qu'on porte sur lui. En faisant ça, il s'était dit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il s'est dit, voilà, il y a eu des excès dans la communication et dans la gestion par rapport aux médias. Du côté de chez Nicolas Sarkozy, il y avait cette idée que finalement, il en faisait trop. Hein, il était tout le temps dans les médias, il parlait tout le temps. Dès qu'il y avait le moindre fait divers, il intervenait. Enfin bon, bref. De l'autre côté, François Hollande, il y avait le côté, il s'est abîmé dans les petites phrases, les confidences avec les journalistes, qui lui a d'ailleurs été vertement reproché avec ce fameux livre des deux journalistes du Monde, un président ne devrait pas dire ça, qui s'est retourné comme un véritable boomerang, on est en Australie, c'est le cas de le dire, contre lui, hein, vraiment, avec des confidences invraisemblables de choses qu'on, effectivement, on ne devrait pas dire. Bref, Emmanuel Macron a tiré la conséquence qu'il ne fallait être ni l'un ni l'autre. Il ne fallait pas en faire trop, comme Nicolas Sarkozy, et il ne fallait pas faire des journalistes, des espèces d'amis au quotidien, avec confidences et autres. Et donc, il a décidé d'avoir une posture assez éloignée des journalistes, ça lui a d'ailleurs été reproché par les journalistes, et une posture qui consiste à dire « je ne vais pas être là tout le temps dans les médias, m'expliquer ». Et il voulait revenir d'ailleurs à la stratégie élaborée par Jacques Pilon quand il était conseiller de la communication de François Mitterrand dans son deuxième mandat et de Jacques Chirac dans son premier. Vraie performance d'ailleurs au passage, hein, parce que ça n'arrive jamais que vous soyez conseiller en communication de deux présidents qui incarnent deux forces politiques différentes. Tant la fonction a priori est de confiance. Bon. Et donc la stratégie de Pilon, c'était dire il faut rendre la parole du président désirable, donc il ne faut pas intervenir à tout bout de champ, il faut laisser du temps et parfois même se taire, ne pas intervenir et tout. Bon. Donc il avait décidé de faire ça. Sauf que Pilon, c'était dans les années 90. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont changé depuis Internet, il y a les réseaux sociaux, justement, tout ça. Donc, là, on voit bien que, pour moi, en tant que spécialiste des communications politiques, c'est intéressant parce que il est sur une espèce d'entre-deux, Emmanuel Macron, qui, à mon avis, lui est extrêmement préjudiciable. D'un côté, il dit non, j'interviens pas, etc. Alors, c'est ce qu'il a fait. Le gouvernement prend des mesures, notamment des coups de rabot budgétaires, etc. Des mesures qui sont forcément impopulaires. Il a été aux abonnés absents de chez absent pour venir justifier et expliquer les options, pour dire que ça avait du sens ou pas, hein. Donc, son côté, moi, je laisse le gouvernement gouverner, puis moi, je prends de la hauteur. Mais là, il y a un moment, ça marche pas. Et puis, en plus, il y a une forme de contradiction, parce qu'il dit, je prends de la hauteur, j'interviens pas. Sauf que sur les réseaux sociaux, make our planet great again, un petit coup sur Facebook et sur Twitter. Et puis, je me montre quand même pour l'obtention des Jeux Olympiques à Paris en 2024, en train de faire du tennis et de la boxe. Enfin, bref. La visite des enfants handicapés, autistes à l'Élysée, avec Brigitte, tout ça sur mon Facebook Live, enfin, etc., etc. Donc il y a un côté contradiction entre, vous voyez, je ne cherche pas à communiquer à tout bout de champ, et puis, mais enfin, quand même, hein, de façon assez régulière, sur mon propre média que sont les réseaux sociaux, j'interviens. Et du coup, avec un côté, sur des sujets peut-être pas les plus essentiels, j'interviens, mais sur les sujets majeurs, là, je suis silencieux. Et donc là, je crois qu'il paye aussi ça, hein, cette crise de l'explication. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'on a lu récemment lors de sa visite en Roumanie, il a amené trois médias, Le Monde, l'AFP, je crois, et Ouest France, je crois, dans l'avion présidentiel, alors qu'il avait refusé dans ses précédents voyages d'amener les journalistes avec lui. Et puis, il aura commencé sur un ton un peu de la confidence, dire un certain nombre de choses, et de laisser entendre qu'il réfléchissait à un dispositif médiatique pour s'adresser régulièrement aux Français, que probablement il utiliserait la radio, ce qui est un bel hommage pour vous, pour votre métier, pour votre média, plutôt que la télévision, sans doute faire une émission peut-être mensuelle à la radio, où il viendrait expliquer un peu comme les causeries au coin du feu du président du Conseil. La 4e République. Enfin bref, on reviendrait finalement à quelque chose qui n'a rien de la modernité, mais tout au contraire, vous voyez, parce que le modèle de Pierre Mendès-France, quand même, ça ne nous rajeunit pas, c'était en 1954. Voilà. Donc, je pense qu'il est en train de corriger le tir. Et, si vous me permettez, je conclurai là-dessus, je dirais que c'est quand même aussi la preuve que la fonction présidentielle, ça s'apprend, qu'on apprend peut-être aussi en faisant des erreurs, et que pour Emmanuel Macron, c'est quand même la preuve aussi qu'effectivement, il est dans un système dans lequel ce qu'il a mis en œuvre pour sa campagne n'est pas forcément efficace quand on est devenu le président de la République. Et ça, je crois, de façon générale, ça fait déjà longtemps que je le dis, que une des grandes difficultés pour les gens qui sont élus aux plus hautes fonctions, c'est que c'est d'arriver à admettre l'idée que les stratégies qu'ils ont conduites pour se faire élire ne sont pas forcément transposables pour gouverner, et que une fois qu'on est élu, il faut sans doute parfois changer de braquet, changer de méthode, enfin, etc. Là, je crois qu'il a voulu faire un peu la continuité et qu'il le paye. Et on va voir dès la rentrée, sans doute, un Emmanuel Macron qui snobera un peu moins les journalistes.
Arnaud, merci d'être venu dans les studios de Radio SBS et bonne continuation.
Merci à vous pour votre invitation.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.